Chapitre 9. Il était parti depuis des mois. L'hiver avait passé, un hiver sec, clair, presque joyeux, pendant lequel une malheureuse femme, qui se croyait pleine de vaillance, s'était traînée au milieu des regrets et des défaillances. Non pas, naturellement, qu'elle regretta d'avoir bien agi, mais elle songeait avec remords à l'aveu coupable et avec désolation à l'ami disparu. Dans l'exaltation d'un sentiment vif, passionné, un grand acte peut être accompli. Mais quand l'effervescence est tombée, les blessures journalières, les détails de l'existence pèsent plus lourdement sur les facultés, car, malgré l'immense amertume renfermée dans l'action généreuse, l'âme a joui sans doute du souffle vivifiant qui, en passant sur elle, l'a élevée au-dessus de son niveau habituel. Aussi est-ce avec dégoût, avec fatigue, qu'elle reprend la vie où elle l'avait quittée. Le bonheur dans le sacrifice transporte, paraît-il, le cœur des saints. Mais bien certainement, malgré la satisfaction d'avoir conservé l'estime de soi-même, ce bonheur n'existe pas dans le cœur d'une faible petite humaine. « Ma pauvre Geneviève, me disait Méran, désolé, comme tu es amaigrie, je ne vois plus que tes grands yeux dans ton visage. Veux-tu partir avec moi? Je suis trop vieux pour aller bien loin. Néanmoins, nous pourrions encore voyager ensemble. » « Oh, à quoi bon ?» C'était la réponse invariable d'un être lâche et découragé qui, stupéfié, ne s'intéressant plus à rien sauf à sa fille, se croyait mort à toutes les sensations de la jeunesse et de la vie. Pourtant, il n'était pas dans sa nature de s'abandonner si longtemps à un désespoir stérile, mais son âme ployée avait une peine infinie à se redresser, et, comme il arrive dans les heures de grande détresse, tous ses chagrins avaient pris une nouvelle intensité. Jamais le vide laissé par la mort de son père ne lui avait paru plus affreux, car jamais un appui ne lui eût été plus nécessaire. Quand il allait voir Méran, des souvenirs doux et pénibles l'entouraient pour l'accabler, et le vieux pastel, avec ses grands arbres sans feuilles, lui paraissait lamentable. Lorsqu'il traversait le jardin dénudé, les vieux domestiques se groupaient derrière les vitres pour le regarder fouler d'un pas languissant l'herbe des allées. D'un air tout pitoyable, il secouait la tête et semblait dire que ce petit spectre tomberait bientôt dans le pays des ombres et de l'oubli. Mais on ne meurt guère de chagrin, et sous l'influence des idées chrétiennes auxquelles j'essayais de m'attacher avec ardeur, comme une liane trop fragile à un arbre robuste, une résurrection morale devait bientôt s'accomplir. Un des premiers indices de ma résurrection fut le désir ardent de voir mon mari reprendre sa place dans sa maison. Quelles que fussent les difficultés de ma vie avec lui, elles étaient préférables à mon profond isolement. Si sa présence était une protection vis-à-vis du monde, elle était surtout une protection vis-à-vis de moi-même. La nécessité de lutter, de réagir contre mon caractère, de remplir des devoirs pratiques, devait m'aider à remonter la pente sur laquelle je glissais souvent et qui conduisait sûrement à la chute morale. J'entassais effort sur effort pour ne pas songer à l'homme qui m'aimait. Mais dans ma vie solitaire, les circonstances extérieures elles-mêmes étaient contre moi. Il avait pénétré trop loin dans mon cœur pour que son souvenir ne se glissât pas dans toutes mes pensées. « Ma vieille fine, que je suis lasse d'être seule! Crois-tu que Louis revienne bientôt ?»« Faut bien qu'il revienne, ma chère dame, et si on m'avait dit il y a un an que j'en arriverais moi aussi à désirer son retour, je ne l'aurais pas cru, bien sûr. » »« Vois-tu, plus je réfléchis à mon attitude vis-à-vis de lui, plus je crois qu'il faut éviter les reproches. » « Vous avez raison, ma reine, me répondit-elle vivement. Tâchez d'être calme et de rendre plus commode pour lui une position difficile. Il vous en saura gré. » « Oh, crois-tu ? » dis-je avec un semblant d'espoir. « Il ne reconnaît rien de bien en moi. » « Vous verrez que, dans quelques années, il comprendra tout de même que sa maison est encore ce qu'il y a de mieux pour lui. Ça se voit souvent. » Pendant ces mois de solitude et de chagrin, cette vieille petite ouvrière n'avait cessé de puiser à pleines mains dans les délicatesses de son cœur pour me soutenir et me consoler. Quelquefois, elle me tenait un discours rempli du bon sens imperturbable qui était le fond de sa philosophie rudimentaire. C'est naturel, bien sûr, que la jeunesse croit tout perdu. Elle ne peut pas être comme les vieux qui ont brassé tant de choses dans leur tête et savent que ça passe bien vite, mon trésor. Le mot le plus simple en apparence, le plus banal, est souvent celui qui calme le plus sûrement. En l'écoutant, je m'en allais dans l'avenir et me voyais comme ces vieillards dont les chagrins aux angles trop durs se sont usés le long de la route. Je songeais que les années tourmentées de la vie ne tiennent pas plus de place dans le cours du temps que les rides formées sur la Loire par la brise qui passait. Parfois, cette idée m'encourageait, parfois, au contraire, elle m'affligeait. Petite femme en plume, malgré ses prétentions à la vaillance, elle s'abandonnait aux impressions diverses qui la faisaient voler à droite, à gauche, sans qu'elle pût se reposer dans un endroit tranquille. Cependant, elle voulait sincèrement échapper à l'engourdissement moral, afin que ses pensées devinssent plus pures, afin que la flamme qu'elle avait laissée baisser à tel point que souvent elle se reflétait à peine sur les parois de sa prison, brisa ses parois pour envahir la volonté. Nous étions à la fin juin quand Louis m'annonça son retour. « Vous me verrez incessamment à Rocheplate, me disait-il, peut-être en même temps que ma lettre. » Ma résolution était bien prise de ne m'abaisser à aucune récrimination. Mon désir se réalisait. Nous allions reprendre une vie commune, du moins en apparence, et j'appelais à mon secours toute ma raison pour dissiper l'irritation qui fermentait à la lecture des quelques lignes banales qu'il m'avait écrites. Mais depuis que je me sentais coupable, depuis que mes pensées secrètes fléchissaient si souvent, j'avais perdu mon âpreté. Enfin, à part les raisons d'un ordre supérieur me portant à la modération, je savais bien que de mon attitude dépendrait le calme de nos rapports. Le soir, il n'était point arrivé. Vers minuit, j'étais encore à ma fenêtre, songeant que, 4 ans auparavant, à la même date, j'attendais avec une joie inquiète le jour suivant, l'inconnu plein d'espérance. C'était la même nuit, le même silence troublé de loin en loin par le cri d'une effraie et le bruissement des feuilles. Je me croyais une autre femme. Néanmoins, mes impressions présentes se reliaient à celles d'autrefois, comme les feuillets d'un livre au feuillet suivant. Je me mis à trembler en percevant tout à coup le bruit d'une voiture dans l'avenue. À cette heure tardive, c'était lui, et je discutais encore avec moi-même pour savoir si je devais descendre ou l'attendre chez moi, quand un pas bien connu, naguère aimé, s'approcha de ma chambre. Louis entra avec la tranquillité apparente d'un homme qui m'aurait quitté la veille. Cependant, la pâleur de son visage dénotait une émotion dissimulée sous l'air altier des anciens jours. Que de fois j'avais songé à ce retour. Préparer mes forces pour l'accueillir, non avec colère, mais d'un air qui, pensais-je, devrait l'émouvoir. Seulement, j'avais compté sur un encouragement, sur un mot qui détendit la situation et me permit de parler. Mais il semblait qu'il fût le juge et moi la coupable. Que c'est donc étrange, mon Dieu, d'espérer toujours contre toute espérance. Je fis un tel effort pour me dominer que je répondis d'un ton posé, presque naturel, aux quelques mots insignifiants qu'il m'adressa. Devant un accueil paisible sur lequel il ne comptait pas, son front s'éclaircit. « Où est Gilberte ? » me dit-il. « Ici, » répondis-je, en soulevant la draperie sous laquelle j'avais caché le berceau pour que l'air de la nuit ne vînt pas jusqu'à elle. Le bruit la réveilla. Elle se mit à rire en voyant son père, qui la prit dans ses bras et la couvrit de caresses. Ce mouvement me remplit de joie. Ah, quel que fût son antipathie pour moi, il y avait dans sa maison un lien trop fort pour qu'il rompît. Quels que fussent ses agissements, sa fille l'attirerait toujours dans le foyer que je n'avais pas voulu détruire. Mais pourquoi éprouvais-je pour moi-même une déception si forte? Lorsqu'il m'eut quitté sans un mot convenable, sans un accent du cœur devant les souffrances visiblement marquées sur mon visage, je me penchai tout oppressé à ma fenêtre en disant « Qu'avais-je donc espéré, mon Dieu? Tel il était parti, tel il revient. La chaîne est de nouveau rivée plus fortement que jamais. C'est moi qui dois en alléger le poids. » mais ce que mes lèvres murmuraient, mon cœur ne le disait pas. Hélas, à mon insu, il s'en allait vers le voyageur qui m'eût si sincèrement aimé. Où était-il? La distraction, le mouvement, agissait-il déjà sur sa tristesse? Songeait-il aussi souvent à la femme accablée qui l'eût voulu consoler? En sortant de ma rêverie dissolvante, je pleurais de dépit et de honte sur moi-même, car je savais bien qu'il ne suffit pas de conserver extérieurement la dignité de la vie et que la loi divine veut un bien plus raffiné. Le lendemain de son arrivée, Louis s'empressa de critiquer tous les arrangements que j'avais dû prendre en son absence. « Vous savez pourtant bien, me dit-il, que j'entends diriger seul les réparations. »« Les choses pressées, répondis-je tranquillement, et comme vous ne m'aviez point déterminé l'époque de votre retour, je n'ai pas pu attendre. » Il me regarda avec attention et se mordit les lèvres. Il découvrait en moi une assurance tranquille qui le déroutait, et il comprenait vaguement que mon caractère avait reçu une empreinte qui devait durer. Dans l'après-midi, il rentra de mauvaise humeur. « Qu'est-ce que j'apprends ? » me dit-il. « Marianne est partie. » Il a été repris par ses anciennes amours et s'est lancé dans de lointaines pérégrinations, répondis-je en tricotant avec ardeur. Ah, il ne m'avait point parlé de ses projets. Au reste, il a raison. La vie stupide que l'on mène ici est odieuse. Je ne comprends plus que les voyages et l'imprévu. Vous me l'avez prouvé, répondis-je avec une vivacité involontaire. Son front se rembrunit, il fut sur le point de s'emporter, mais il se contint. Sans Marien, la vie ne sera plus tenable ici, reprit-il avec humeur. Il a beau être assez ridicule avec ses incorrections et ses habits de l'autre monde, c'est un excellent compagnon de chasse et un bon enfant. Pauvre Marien, comme la vraie distinction, celle du cœur et de l'intelligence, est souvent traitée singulièrement. Je m'abstins de répondre et de relever mes yeux, dont l'expression m'eût peut-être trahi. Une semaine s'écoula péniblement. En arrivant à Rocheplate, il était décidé à m'imposer silence, si, comme il le croyait, j'avais éclaté en reproches violents, et il eut pris le prétexte d'une scène pour tourner l'arme contre moi-même. Sa surprise avait été agréable, mais il avait déjà oublié qu'il devait à mes efforts la facilité de nos relations, et mon sang-froid commençait à l'irriter. Mon attitude froide, mais ni hostile ni compassée, l'humiliait. Il m'en voulait du mal qu'il m'avait fait et de ma façon d'y répondre. Néanmoins, il n'y avait point eu de conflit sérieux entre nous, jusqu'au jour où le bon petit Méran, ne pouvant se contenir, l'accabla des plus vifs reproches. Louis, qui était allé le voir, revint à Rocheplate dans un état de fureur indicible. Il entra dans le salon, les sourcils contractés et d'un air qui effraya tellement Gilberte qu'elle se cramponna à ma robe en le regardant avec de grands yeux étonnés, car, grâce à Dieu, il n'avait jamais pour elle que des mots caressants. « Je vous défends, me dit-il d'un ton impérieux, de recevoir désormais votre Méran. » Je ne répondis rien de peur de l'exciter. « Quand on pose pour la dignité, quand on se dit chrétienne, s'écria-t-il, doit-on se plaindre si haut ? Est-il convenable d'exposer son mari à la scène que ce ridicule vieillard vient de me faire ? Peut-être l'aviez-vous chargé de me traiter en écolier ?»« Vous savez très bien qu'il n'en est rien, répondis-je. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Mais il n'écoutait pas, sa colère s'excitait toute seule, et ma fille, dont la nature était impressionnable, changeait à vue d'œil. « De grâce, taisez-vous, taisez-vous » m'écriai-je. « Regardez, Gilberte !» L'enfant, bouleversé, venait de tomber en convulsion dans mes bras, et je vis que Louis pâlissait affreusement devant ce petit visage crispé. La crise fut courte. Il n'en restait le lendemain qu'une grande crainte à la vue de son père, qui, dès le matin, était venu la regarder. Mais moi, j'avais passé ma nuit à réfléchir et modifier mes plans. J'allais trouver Louis dans sa chambre, absolument résolu à me faire écouter. « Il est nécessaire, lui dis-je, que vous écoutiez tranquillement ce que j'ai à vous dire. » « Que signifie cet exorde ? » demanda-t-il avec ironie. « Simplement que si vous ne croyez pas pouvoir vous dominer assez pour conserver vis-à-vis de moi une certaine modération, il faudra que nous nous séparions. » « Quelle est cette chanson ? s'écria-t-il en s'emportant immédiatement. « Croyez-vous que je supporterai ?»« Vous m'entendrez » interrompis-je d'un ton si ferme et si résolu que j'obtins un instant de silence. « Je ne récrimine rien pour moi et j'étais très décidé à ne jamais recourir aux moyens extrêmes. Mais l'accident de Gilberte a modifié toute ma manière de voir et même de sentir. Si votre antipathie est telle que vous ne puissiez vivre avec moi sans entrer dans des accès de fureur qu'il n'est plus de mon devoir de supporter, séparons-nous à l'amiable. » « Ni à l'amiable, ni autrement, » répondit-il en frappant du pied. « Ni autrement ? Et moi, je vous jure que si vous ne rendez pas supportable ma vie et celle de ma fille, j'aurai recours aux tribunaux. » Malgré la fermeté de mon attitude, je m'appuyai des deux mains sur le dossier d'un fauteuil, car mon corps fléchissait de peur et d'émotion. Mais Louis, quand il le voulait, se dominait parfaitement. Sa frayeur de la veille avait été extrême, et il était de ces hommes qui, aimant par-dessus tout la correction extérieure, redoutent comme un fléau l'opinion du monde. Il avait fallu tout l'emportement de sa passion pour qu'il lui donnât la publicité d'un scandale et la menace que je venais de prononcer portait sur un fait réalisable qui lui serait odieux, lors même que le procès tourna contre moi. « Il me semble, me dit-il d'un ton glacé, que je vous prouve déjà ma patience. »« C'est très bien, répondis-je froidement. Et moi, je fais des vœux pour n'avoir pas à vous prouver que ma résolution est immuable. » Je le laissai à son étonnement et à sa colère, pensant que le feu couvait sous la cendre et qu'il éclaterait bientôt avec violence. Mais le jour même, il déjoua mes craintes en s'abstenant de toute observation quand il vit la vieille fine traverser le jardin de son pas trottinant, ses fers à la main et toute palpitante en songeant à son audace. Ce vieux cœur fidèle avait fait taire ses fiertés habituelles par affection pour moi, et, comme par le passé, en dépit des événements, j'eus la joie, chaque samedi, de voir apparaître sa chère et comique petite silhouette.